Voilà, ce soir, nous allons aborder, comme annoncé, l'impact de la liturgie chez les jeunes, atouts et obstacles. Le plan est tout simple, introduction, mentalité jeune, atouts et obstacles. En fait, c'est plus facile d'énoncer ce titre que de répondre à cette question. Dans la mesure où l'impact de la liturgie chez les jeunes, c'est un sujet qui a quelque chose de téméraire, tant il est vaste, et à ma connaissance, du moins en français, il n'y a pas beaucoup de bibliographies. Il y a certainement pas mal d'idées de publication à propos des enfants, et plus précisément pour la tranche entre 6 et 12 ans. Mais la tranche suivante, entre 12 et 20 ans, celle qui habituellement rompt avec la pratique dominicale familiale quand elle existe encore, cette tranche d'âge-là, de 12 à 20 ans, n'est guère l'objet d'une réelle attention en matière de liturgie. Je ne dis pas qu'on ne s'y intéresse pas en matière de religion ou de foi chrétienne. Il y a beaucoup de publications sur les jeunes et sur la foi des jeunes de cet âge-là. Mais sur la dimension liturgique de leur foi, je ne pense pas qu'il y ait énormément de choses. Enfin, si vous en connaissez, ça m'intéresserait. Alors, deux remarques préliminaires. D'abord, tout comme les adultes, les jeunes sont très divers et sont le produit de toutes sortes de vécus. Les jeunes, en fait, sont tous différents, parfois très différents. Et il n'y a rien de plus agaçant qu'une généralité du genre « Tous ceux qui habitent le boulevard Saint-Michel à Bruxelles sont comme ceci ou comme cela. » Si on habite à cet endroit-là, on n'aime pas trop. Donc on doit être attentif, et enfin j'essaie de l'être en tout cas, pas simplement à titre de méthode, quand on dit « les jeunes ». Alors, ensuite, deuxième remarque, la liturgie, certes, nous met en contact avec l'invisible et l'immuable, mais est-ce que je peux encore risquer de rappeler ici à quel point l'action liturgique dont Dieu a l'initiative sollicite notre réaction? La fameuse participation active, consciente et spirituellement féconde demandée par le Concile Vatican II ne vise en aucun cas un sujet statifié ou intemporel. L'homme occidental du XXIe siècle n'est pas le clone d'un rural ou d'un citadin médiéval. Et ce constat est particulièrement vrai pour nos jeunes. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, l'influence et la forme de la scolarité des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comparables à ce que c'était il y a 50 ans. De même, l'insertion d'un jeune dans une famille moderne de plus en plus recomposée, où la symbolique du père éveille des harmoniques bien différentes d'un jeune à l'autre. Je me souviens, c'était au début, quand je faisais de la catéchèse pour des enfants de première communion, 7 ans, et j'essayais d'expliquer notre père. Je commence, notre père. Et je vois un enfant qui devient blême. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et devant tout le monde, c'est ce méchant qui a abandonné maman. Donc, autrement dit, les enfants aujourd'hui portent en eux une expérience affective et une expérience qui fait partie de leur histoire, qui est beaucoup plus variée que jadis. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à dire à propos du père. Les psychologues et les psychiatres nous disent que c'est d'autant plus important de le nommer le père, même quand il est absent. Mais le contexte, pas simplement culturel, mais affectif, où ce terme, ce symbole clé pour notre foi chrétienne résonne, ce contexte varie très profondément depuis, pour la Belgique, 30-40 ans, puisque c'est à peu près depuis 30 ans que brusquement en Belgique, les statistiques de divorce ont commencé à augmenter très fortement, alors qu'il y a 30 ans, c'était par rapport aux pays européens, un des pays extrêmement stables. En fait, tous, jeunes ou moins jeunes, sont emportés aujourd'hui par la vitesse, par un courant rapide. Et ce qui diffère par rapport à il y a 50 ans, je viens de l'évoquer à propos des divorces, Ce n'est pas le changement en tant que tel. Le monde a toujours changé. Et l'humanité a toujours été sujette à des changements. Mais ce qui a changé, comme vous le savez, c'est la vitesse du changement. Et puis en particulier, pour l'adolescent actuel, existent désormais des béquilles, parfois même une prothèse, que sont le web, le zapping, le téléphone portable. Tous des éléments qui, dans leur quotidien, et dans, pour une part dans leur structuration, ont une importance qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. Voilà en guise d'introduction. Disons quelques mots à propos de la mentalité jeune aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je parle de cette mentalité? Mais je fais allusion à ce que je viens d'évoquer un moment, c'est que la liturgie n'est pas faite pour des sujets qui sont intemporels. Et donc la liturgie se doit, bien entendu, de tenir compte de ceux et celles qui la célèbrent. Mentalité jeune aujourd'hui. Lorsqu'on dit, ce qu'on entend quand même dire assez régulièrement, pas tellement chez les jeunes, mais chez les moins jeunes, que l'autorité est finie, ou encore il n'y a plus d'autorité aujourd'hui. Eh bien, on utilise le terme autorité, auctoritas en latin, qui, très comme le mot étymologiquement le suggère, l'auctoritas, c'est ce qui peut augmenter le pouvoir. Le verbe latin, sous-jacent, c'est augere, ou augere, augmenter. Et qu'est-ce qui peut augmenter le pouvoir? Eh bien, c'est cette association qui remonte à la nuit des temps entre le pouvoir et la transcendance, en l'occurrence pour nous, le divin. Et j'emprunte cette réflexion à un excellent livre, un peu technique, du professeur Philippe Van Merbeek, c'est un des grands psychiatres de l'adolescence, et qui a publié l'an dernier un livre qui est en fait le syllabus d'un de ses cours. Ça s'appelle « Ainsi soit-il au pluriel ».« Ainsi soit-il au pluriel » à l'école de l'adolescence. Le sous-titre est très évocateur du livre. Vous trouverez ça dans les notes des notes à partir de cette nuit sur Internet. Et donc, Philippe Van Merbeek fait remarquer que dans notre monde hyper contemporain, désenchanté, dans l'effroi, il reprend l'expression à Pascal, dans l'effroi de l'homme sans Dieu, il existe, dit-il, incontestablement un sentiment religieux, mais ce sentiment religieux est sans tradition. Le sentiment religieux qu'il détecte chez les nombreux adolescents qu'il voit, qu'il soigne, ce sentiment religieux est totalement privatisé, New Age ou parfois fanatique. Et l'argument d'autorité, qui n'en est jamais un puisqu'il consiste en fait à couper court à toute discussion, l'argument d'autorité ne peut plus se fonder sur le droit divin. La démocratie, tant à l'école que dans la famille, est établie. Si vous me dites que dans votre famille il n'y a pas de démocratie, ça signifierait que vous donneriez à vos enfants ou à vos petits-enfants des instructions sans dialogue, enfin, on appelait ça dans le temps discussion, mais donc sans qu'il y ait un va-et-vient de parole entre les deux. Et ce qui devient, heureusement, quand même relativement rare, et en général, les jeunes se rebiffent tôt ou tard devant cette forme d'autorité-là. Les jeunes, aujourd'hui, bien plus qu'il y a 50 ans, sont nés dans une mentalité, si pas démocratique, en tout cas très, très participative. Aujourd'hui, tout se négocie, et chaque adolescent est en droit de se demander... Le psychiatre dit « est en droit de se demander à quoi peut lui servir la matière enseignée et au nom de quoi l'exigence de la connaissance qu'on lui demande a quelque intérêt pour lui et donc quel est l'intérêt qu'il fasse l'effort de connaître. » C'est toute la problématique de ce film qui a gagné le premier prix au Festival de Cannes, « Entre les murs ». Donc l'autorité aujourd'hui est devenu, dit Philippe Van Merbeek, contractuel. Il faut négocier, convaincre, se vendre ou plaire, ou si vous préférez le mot, séduire. La question c'est jusqu'où? On peut le regretter, mais c'est comme ça. Alors, j'emprunte la réflexion suivante à une femme dont j'apprécie beaucoup les travaux. C'est une spécialiste du fait religieux, Danielle Hervieux Léger. Elle enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et elle a écrit toute une série de choses, dont un livre relativement, enfin pas si récent, il a déjà il y a 10 ans, en 1999, La religion en mouvement, mais qui est surtout célèbre par son sous-titre Le pèlerin et le converti. Alors, Daniel Hervieux-Léger, si que ceux qui la connaissent me pardonnent d'en dire quelques mots, mais je trouve ça tellement éclairant parce qu'elle donne son éclairage de sociologue par rapport à ce fait qui interpelle beaucoup nos églises depuis en fait 30 ans, hein, et qu'on appelle le renouveau ou les renouveaux religieux. Alors, en quelques mots, d'après elle, c'est au tournant des années 1970 que le paysage religieux des sociétés occidentales va connaître le plus profond bouleversement. On va assister à un développement important de nouveaux cultes et de sectes, et même à l'explosion, dit-elle, au sein même des grandes églises, de mouvements de renouveau qui vont être porteurs d'une capacité d'innovation et de mobilisation inattendue. Et pour Daniel Hervieux-Léger, c'est en fait la contestation, ou plutôt le constat, hein, c'est le fait que l'observation que la société ou que les sociétés modernes sont incapables de satisfaire les besoins fondamentaux des individus. Donc c'est une sorte de ce que Marcel Gauchet va appeler le désenchantement du monde. C'est une sorte de désenchantement avant la lettre. On va constater que, en fait, les besoins essentiels de l'homme ne sont pas rencontrés par les sociétés modernes. Et d'après elle, c'est là le commun dénominateur de tous les mouvements de renouveau religieux, hein, car il n'y a pas que le mouvement charismatique, loin s'en faut. Elle présente ce qu'elle appelle la nouvelle religiosité comme la contre-image de la civilisation moderne qui, dit-elle, a perdu toute capacité de fournir à l'individu l'univers de sens à l'intérieur duquel l'individu peut trouver la possibilité de se retrouver lui-même. Autrement dit, les nouvelles religiosités, comme elle les appelle, cherchent à répondre au déficit de sens généré par une très très grande fragmentisation, par une très très grande atomisation de l'homme. Et c'est particulièrement vrai pour nos jeunes qui connaissent énormément de choses, mais parfois qui n'ont pas toujours, les adultes non plus, hein, le meuble où classer les différents tiroirs. Donc on a des informations, on a un savoir qui est très pointilliste, qui est parfois très très spécifique et très très fin, mais en réalité, on manque un peu, enfin on manque parfois d'ossature ou de squelette pour hiérarchiser, pour articuler, le mot est plus correct, c'est savoir les uns par rapport aux autres. Et donc, toujours d'après Daniel Hervieux-Léger, la modernité, entre guillemets, religieuse se caractérise par l'individualisation et la subjectivisation des croyances. Les croyances ne disparaissent pas, elles deviennent plus individuelles et plus subjectives. Et il y a une conséquence importante de cela, c'est que de soi et en soi, les sociologues l'ont vu depuis longtemps, croire a une incidence sociale au sens de sociabilité. Et donc, la sociabilité va être profondément marquée, influencée par le découplage entre la croyance et la pratique. Et ce découplage, ce désattelage entre croyance et pratique va donc affaiblir le rôle des institutions religieuses. Cette ou ces nouvelles religiosités s'expriment également par la revendication d'être libre de bricoler son propre système croyant. On peut contester l'expression qui peut être péjorative, mais elle est très très éclairante, hein, le bricolage religieux. Dans la mesure où les croyances dans les nouvelles religiosités s'expriment sur un mode probabiliste du genre peut-être bien, mais je ne suis pas sûr. Beaucoup de jeunes s'expriment ainsi, et de moins jeunes aussi. Peut-être bien, mais je ne suis pas sûr. Et donc, ces croyances probabilistes sont de moins en moins conformes, on s'en doute, aux dogmes des grandes religions. Et dans ce nouveau paysage religieux, il y a également une grande, grande tolérance pour les autres croyances. Le bricolage en question se différencie en fonction des classes sociales, en fonction des sexes, en fonction des générations, certes, mais dans ce système-là, plutôt dans ce contexte-là, eh bien, il est possible de croire sans adhérer à une institution ou à une église. Ça ne veut pas dire que cette privatisation de la croyance efface le besoin d'exprimer cette croyance dans un groupe. Au contraire, presque. On exprime sa croyance, mais dans un groupe qu'on se choisit, ou qu'on a choisi. Et paradoxalement, cette privatisation de la croyance produit la multiplication de petites communautés qui sont fondées sur des affinités sociales, culturelles ou spirituelles de leurs membres. Et en outre, et ceci me semble-t-il être essentiel à bien prendre en compte, le religieux des sociétés modernes est en mouvement, ça bouge comme tout le reste. Donc il ne suffit pas de constater que les croyances désormais sont davantage privatisées, qu'elles sont davantage bricolées, qu'on est davantage en dehors des institutions ou des églises, mais en outre, c'est sans cesse en mouvement. L'identité religieuse contemporaine n'est pas du tout stabilisée. Et c'est pour ça que, à côté de la figure courante du pratiquant, Daniel Hervieux-Léger découvre une figure nouvelle, celle du pèlerin. Le pratiquant et le pèlerin, ce sont deux modèles de sociabilité qui fonctionnent très différemment. Et chez les jeunes, il y a les deux. Il y a des jeunes qui sont très pratiquants et qui s'épanouissent. La majorité est plutôt très pèlerine. Alors, en deux mots, la figure du pratiquant relève d'une pratique obligatoire, normée par l'institution, qui est fixe, qui est communautaire, qui est territorialisée et qui est répétée. Tandis que la figure du pèlerin relève d'une pratique volontaire, c'est moi qui veux, c'est pas une autorité qui m'oblige. Une pratique autonome, modulable, individuelle, mobile, exceptionnelle, et qui très souvent, cette pratique entre guillemets pèlerine, provoque un moment de grande intensité religieuse. Et il est facile de voir ici à quel point, entre guillemets, la formule des JMJ, des Journées Mondiales de la Jeunesse, qui a permis à Jean-Paul II de rassembler tant de millions de jeunes de par le monde, à quel point cette formule est calquée sur la prière de Thésée, dont on va parler longuement à la fin de cette rencontre, et également à quel point cette formule des JMJ répond bien à ce canevas pèlerin que j'évoque à l'instant. Ces journées des JMJ offrent la possibilité d'une participation modulée, dont l'individu fixe lui-même l'intensité, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Et ces journées reprennent, en l'adaptant, elles reprennent en fait cette expression de religiosité pèlerine qui caractérise notre modernité et qui, en fait, permettent entre autres un rassemblement temporaire qui est le propre du pèlerinage. Tous ceux qui animent les groupes de jeunes savent que ce n'est pas si dur d'obtenir leur adhésion dans un pèlerinage. Il y faut toutefois une condition qui est de taille, c'est qu'il soit presque certain qu'il y ait d'autres jeunes de leur âge qui y soient. Je vais revenir à ces groupes d'appartenance. Une autre personnalité qui m'a beaucoup marqué dans cette problématique, c'est un professeur de Louvain-la-Neuve, James Day, et qui est professeur de développement social, moral et religieux à l'UCL. C'est aussi, et peut-être d'abord, un prêtre anglican en paroisse, ici à Bruxelles, et qui, en fait, sans cesse fait interférer la théorie sociale qu'il enseigne et ses nombreux contacts paroissiaux. Et donc, j'ai entendu cet homme en fin janvier 2008 dans un colloque organisé par l'unité de théologie pastorale à Louvain-la-Neuve en lien avec les services de formation des différents diocèses francophones belges. Et dans cette journée de réflexion consacrée à des lieux à proposer aux jeunes pour vivre une foi communautaire et épanouie, vaste programme, en fait, c'est lui, le professeur D, qui a commencé cette réflexion. Et à l'inverse de beaucoup de poncifs, il a refusé de cautionner un pseudo-désintérêt des jeunes pour la religion. Quand on dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la religion, c'est faux. Et ma propre expérience confirme cela. Au contraire, disait le professeur D, la construction de soi comme projet de foi, la construction de soi comme projet de foi est mobilisateur pour les jeunes. Et c'est ce que je constate en tout cas dans ma propre expérience pastorale, puisque je crois que vous avez déjà dit que dans cette paroisse de Waterloo Centre, on a entre 4 et 5 000 jeunes, parce qu'il y a de grosses écoles qui s'y trouvent, et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, le Christ est mort pour eux, et que fait-on pour eux? Et donc, en commençant à faire des animations de retraite, des animations de célébration de rentrée, et puis de Noël, de Pâques, à la fin de l'année, on constate qu'effectivement, les jeunes sont massivement intéressés par le fait religieux. La question, bien sûr, est en partie liée à la façon dont on présente cela aux jeunes, et la façon aussi dont la tradition orale du collège ou du lycée le présente. Donc c'est le début qui est difficile. Une fois, entre guillemets, que ça a marché pour certaines classes, ils se parlent à la cour de récré et les choses deviennent plus simples, c'est-à-dire qu'il y a moins de raidissement pour entrer en matière. En fait, le professeur D présentait comme ceci la question des jeunes d'aujourd'hui. Où trouver ou où se trouve le regard qui, un, nous découvre que nous sommes aimés? Où est le regard qui nous découvre que nous sommes aimés? Et deux, le regard qui nous donne un horizon d'avenir. Pour lui, les deux grandes questions, c'est l'amour dans le sens de qui m'aime et l'espérance. Alors, comme chacun sait, le développement humain n'est pas un simple processus évolutif, mais c'est une série de transformations successives, à la fois physiques, mentales, sociétales, qui vont exiger chez tous, et chez les jeunes en particulier, d'incessantes reconstructions de nos acquis et plus encore de notre identité. Donc, on grandit en se remettant en question de gré ou de force. Or, à l'adolescence particulièrement, la question de l'identité est majeure. Qui suis-je? Comment gérer mes changements corporels? Quelles valeurs choisir sur le marché des valeurs disponibles? Concrètement, et je termine de résumer la conférence du professeur D, il y a, d'après lui, trois incontournables aux yeux des jeunes, et je partage tout à fait son avis, il y a trois incontournables. Qu'est-ce qui peut aider face à la souffrance? Qu'est-ce qui peut aider face à l'amour? Qu'est-ce qui peut aider face à l'avenir? L'amour et l'avenir, on s'en doutait. Ne sous-estimez pas l'importance de la thématique de la souffrance chez un jeune. Voilà, très rapidement esquissé, la mentalité jeune aujourd'hui. Alors, avant de voir les atouts, voyons quelques obstacles. On vient de rappeler que les adolescents sont en recherche de construction de leur identité et en recherche de sens aussi, à condition qu'ils puissent librement assumer le sens qu'ils désirent. Alors, j'attire votre attention sur ceci, c'est que beaucoup d'acteurs ou d'agents pastoraux, comme on dit aujourd'hui, beaucoup de pasteurs pensent que ici, la liturgie est la bienvenue. Pourquoi ? Parce que, à première vue, la liturgie représente la partie majeure de la surface de contact entre les jeunes et l'Église. Si vous parvenez à amener les jeunes à la messe ou à l'Église, c'est à première vue le lieu le plus aisé, hein, ou en tout cas, d'un point de vue statistique ou numérique, l'Église peut encore avoir des contacts avec des jeunes. En fait, quand on voit les choses ainsi, hein, amenons-les à l'Église ou profitons, enfin je vais dire ça de manière un peu dure, hein, mais je l'ai entendu, profitons des funérailles d'un jeune parce que l'Église sera remplie de jeunes et alors à ce moment-là, on pourra leur dire que... ça s'appelle en termes techniques une forme de manipulation, donc c'est pas tout à fait juste, je crois, comme approche pastorale et évangélique. Je ne dis pas qu'il ne faut rien dire aux jeunes qui sont là, mais il ne faut pas se servir de la liturgie comme surface de contact entre le jeune et l'Église. La liturgie, d'abord, il n'y a jamais à s'en servir pour. Il y a à la vivre et à la célébrer. Quand on fait ça, quand on se sert de la liturgie pour entrer en contact avec des jeunes, on va alors poser à la liturgie des exigences trop fortes et souvent mal placées. Car dans la plupart des cas, les célébrations liturgiques de la paroisse ne peuvent guère offrir aux jeunes l'aide qu'ils attendent, en général personnellement, dans leur recherche d'identité. Pourquoi ? Parce que la situation spécifique de leur âge et leurs problèmes personnels dominants, qui parfois prennent beaucoup de place, ne peut être prise en compte dans ces circonstances-là. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes ressentent souvent la liturgie comme un événement pas nécessairement ennuyeux. Je crois que le gros reproche des jeunes par rapport à notre liturgie habituelle, je veux dire paroissiale, c'est que cette liturgie semble indépendante du temps et de la situation. Elle ne touche pas ce qu'ils vivent et elle ne touche pas ce que les gens autour d'eux vivent, à part peut-être quelques intentions de prière à la prière universelle des fidèles. Dans la liturgie, le jeune qui se cherche lui-même n'a pas l'occasion de poser des questions, encore moins ses questions. Aucune discussion interne ne peut avoir lieu de manière fructueuse, alors que cette discussion est indispensable à sa maturation. Et sous ce point de vue-là, ce n'est pas le seul, les réponses données dans la liturgie aux jeunes sont dans une grande mesure trop globales, trop abstraites, trop théologiques et trop à côté des questions qu'ils se posent vraiment. Alors comprenez-moi bien, je ne cherche pas à dire le jeûne c'est un véritable miracle et la liturgie doit tout faire pour s'y adapter. Je cherche simplement à partager quelques réflexions autour de l'apparent désintérêt des jeunes pour ce moment essentiel dans notre rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ, dont on parlera plus explicitement et de manière plus spirituelle lors de notre dernière rencontre. Comment peut-on faire participer le jeune à cette dimension-là de notre propre foi ? La liturgie de l'Église se rapporte pour une part importante à l'Ancien et Nouveau Testament. Il est, je crois, essentiel de se rappeler que tout ce qui est consigné dans la Bible, que les exégètes me pardonnent ou me bénissent, tout ce qui est rapporté dans la Bible, absolument tout, est lié d'une manière ou d'une autre au récit que des hommes font de leur expérience de rencontre de Dieu. J'apprécie, je sais qu'ils sont un peu le roussi, mais j'apprécie beaucoup de ce point de vue-là, le théologien belge, mais qui a migré en Hollande, Edward Schillebeek, dans sa Christologie, donc le début de sa Christologie est, à mon avis, admirable quand il dit « Tout a commencé par une rencontre. Jésus de Nazareth a rencontré des hommes, ils se sont laissés rencontrer par lui. » Or, le propre d'une expérience de rencontre, dit Schillebeek, c'est d'être à la fois identificatrice et interprétative. Identificatrice, c'est-à-dire, c'est qui ? Mon vieux et cher père disait parfois, dans un ton un peu salonnard, mais dans le bon sens du terme, « Qui est-ce ? Je n'ai pas été présenté. » Donc, en fait, on cherche, quand on rencontre quelqu'un ou quelqu'une, à savoir qui c'est. Et ensuite, c'est très peu conscient, on se demande, mais qu'est-ce que, pas nécessairement qu'est-ce que ça m'apporte, mais qu'est-ce que ça implique pour moi, cette rencontre ? Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va enrichir ? L'interprétation d'une rencontre. Eh bien, l'évangile est né comme ça. C'est qui, ce Jésus ? Et qu'est-ce que ça implique ? Et en fait, toute la Bible est le fruit d'une expérience de rencontre de Dieu. Si vous parvenez, pas pendant la liturgie, mais d'une manière ou d'une autre, à effectivement communiquer aux jeunes cette énorme dose expérientielle qui a façonné la Bible de part en part, vous aurez un intérêt beaucoup plus grand. Car à partir du moment où vous arrêtez de jargonner avec des noms de personnages ou des noms de lieux, ou encore des termes qui sont devenus techniques dans la religion juive ou dans la religion chrétienne, à partir du moment où vous essayez de cerner l'expérience de rencontre de Dieu sous-jacente, vous aurez un intérêt qui est loin d'être négligeable, en fait foi de nombreux ateliers bibliques avec des ados, certes obligés d'y aller parce que ça fait partie des cours et que s'ils ne viennent pas à l'école, ça va barder, mais en réalité, il y a de l'intérêt. Le monde biblique et les personnages sans décodage sont beaucoup trop étrangers à la plupart des jeunes et ils ne font pas le lien entre ces écrits et l'expérience religieuse de rencontre du divin qui est sous-jacent à toutes les lignes de la Bible ou quasi. Le reproche général qu'on entend de la part des jeunes à propos de la liturgie, c'est qu'il y manque une référence à la vie. Et dans le même registre, il faut se rappeler que les jeunes accordent d'habitude bien plus de valeur que les adultes à une participation totale aux actions liturgiques, c'est-à-dire pas simplement l'intelligence, mais tout leur sens et leur corps tout entier. Leur intérêt et leur disponibilité à participer seront moins éveillés, seront moins développés si la dimension cognitive n'implique pas aussi la dimension émotionnelle qui leur tient tant à cœur. Et donc c'est avec tout leur être spirituel et corporel que les jeunes désirent être acceptés dans les lieux vers lesquels ils se tournent librement et dont ils attendent en retour liberté, joie, satisfaction intérieure. Reste alors l'univers des symboles liturgiques. Ce pourrait être un véritable plus, en tout cas dans la façon dont on a parlé des symboles longuement précédemment. Mais c'est hélas, les symboles liturgiques, un des points principaux où les jeunes expriment leur malaise dans les offices liturgiques. Parce que de nombreux gestes, signes et symboles ne sont pas compréhensibles d'eux-mêmes pour les jeunes, dont l'accès à la liturgie est déjà difficile pour d'autres raisons. Et c'est d'autant plus vrai quand ces gestes symboliques sont mal exécutés dans la pratique, comme l'expérience le prouve, et qu'on ne leur donne pas le déploiement qui leur est nécessaire. Donc, ici, une fois de plus, dans le sujet plus spécifique qu'est le nôtre ce soir, de grâce, prenons notre compte, cette loi fondamentale de la liturgie, ne dites pas ce que vous faites, faites ce que vous dites. Et donc, simplifions, si besoin est, un certain nombre de symboles, mais ceux que nous conservons, exécutons-les de A à Z, de façon tout à fait déployée. Pas nécessairement en parlant. Je vais en cours ce matin, donc on est pour l'instant dans la veillée de Noël, les différentes écoles, petits et grands. Et donc il y avait 300 élèves d'une école. On avait pris de 3e primaire à 6e primaire. Et donc il y avait une veillée de Noël, donc un conte, un mime, etc. Et puis à la fin, donc sans l'avoir prévu dans le programme, donc j'ai dit, mais écoutez, maintenant on va faire un moment de silence et on va dans notre cœur écouter ce que Jésus veut nous dire ou ce que nous avons à lui dire. Eh bien, c'était bouleversant parce que donc cette église avec 300 petits en fait, hein, pendant 4-5 minutes, on n'entend pas une mouche voler. Donc je veux dire que les symboles, que ce soit ici le silence, j'y reviendrai longuement à propos de Thésée, que ce soit à propos de gestes, hein, lors d'un baptême par exemple, hein, enfin un autre exemple, mais on peut le multiplier à l'infini, lors d'une célébration d'un baptême, et certainement avec des personnes qui apparemment sont peu pratiquantes, de grâce, les quelques signes de croix qui s'y font, soyons-les, et invitons cette assemblée, en général réduite chez nous, enfin ce sont 15-20 personnes, à bien soigner leurs signes de croix, ils le feront volontiers, parce que c'est le baptême du petit. Donc il y a, si vous voulez, tout un univers symbolique, il n'est pas indispensable qu'en faisant un signe de croix, s'il y a des ados qui sont présents, qu'ils connaissent le fin fond du mystère trinitaire, dans la mesure où on peut le connaître, mais qu'ils perçoivent, qu'ils pressentent, hein, le fait que le symbole, fondamentalement, est créateur de liens, j'y ai beaucoup insisté. Mais comment voulez-vous créer des liens si on fait des chasse-mouches? Comme ça. Cela dit, on doit se rendre compte quand on... Je crois que j'ai déjà dit ça, donc, également, donnant la catéchèse de première communion, hein, donc, la première fois que je l'ai fait, je rencontre des enfants pour la première fois, et maintenant, les enfants vont faire un signe de croix. Je n'avais pas encore beaucoup d'expérience en catéchèse. Hein. Et donc, sur les 30 enfants, je crois qu'il y en a deux, à peu près, qui l'ont fait à peu près correctement. Je ne parle même pas de distinction main gauche, main droite. Et donc, beaucoup d'autres regardaient, et puis il y en a qui faisaient un geste du genre comme ceci ou comme ça. Et je me suis dit, en moi-même, mon bonhomme, des familles, à peu près 30 familles, te confient leur enfant. Ils n'ont pas eu le temps de leur apprendre le signe de croix avant qu'ils arrivent ici. Tiens-en compte dans ce que tu racontes. Alors, je ne vais pas les tirer sur les parents, ça ne me regarde pas. Mais je constate qu'en fait, cet enfant à 7 ans ne sait pas le faire. Mais bon, il l'apprendra, c'est pour ça qu'il est là. Donc, je pense qu'une des grandes difficultés qu'on a avec des jeunes, ici je parle des plus jeunes, mais aussi avec d'autres, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on jargonne pour eux. C'est pas le même langage. Hein. Je crois que j'ai déjà dit ça ici, Timothy Ratcliffe, dans sa conférence qui m'a beaucoup frappé lors de Bruxelles Toussaint 2006, je n'ai pas entendu la toute récente ici, il parlait des jeunes comme de fantômes. Hein. Je crois que j'ai déjà évoqué ça ici. Hein. Donc, on passe à côté d'eux comme si on ne les voyait pas. Alors, c'est vrai qu'on les voit, surtout particulièrement quand ils traversent et que c'est rouge pour les piétons, donc on n'aime pas trop. Mais en réalité, ce qu'on ne réalise pas assez, c'est combien notre langage est différent du leur et combien on intègre peu leur langage et peu, je crois, leur questionnement. Certainement en matière de liturgie, de religion. Je ne dis peu, je ne dis pas pas. Quelques mots sur le sens communautaire des jeunes. Ça, nous le savons bien, les jeunes cherchent le contact avec les groupes de même génération, mais il faut bien savoir que dans ces groupes que les jeunes recherchent, les relations sont à géométrie variable. Et donc, cela va de l'engagement total dans l'objectif du groupe jusqu'à une présence facultative, de préférence décidée au dernier moment, aux grandes dames des organisateurs. Et dans les rassemblements anonymes, les jeunes cherchent à nouer rapidement des liens. Et ils sont ici puissamment aidés par leur naturel et leur spontanéité. Alors, un dernier mot, il faudra en dire beaucoup plus sur la créativité des jeunes. Autant les jeunes se soucient de se construire pour eux-mêmes un environnement le plus familier possible et des modèles de comportement qui sont relativement sûrs, en tout cas pour le moment, autant ils refusent très vite la répétition d'un donné établi qu'ils qualifient de monotone. La nouveauté et l'extraordinaire les intéressent beaucoup plus que le répétitif. Et malgré les très nombreuses possibilités d'adaptation mises en place par les livres liturgiques post-conciliaires, malgré les fêtes, malgré les temps, malgré les occasions mobiles, malgré les contenus souvent très différents de prédication, Les jeunes ressentent la liturgie comme peu variée, plutôt uniforme et parfois inintéressante. Quant à la musique, que les jeunes écoutent parfois à longueur de journée, ils en sont en majorité plus consommateurs qu'acteurs. Et le répertoire des chants traditionnels ne les touche guère, sauf quand le phrasé des chants d'église les rejoint personnellement ou que on accompagne ces chants avec leurs instruments habituels, guitare, flûte, percussion, son électronique. Donc voilà quelques traits rapidement escossés des obstacles. Parlons maintenant des atouts. Dans la manière où la liturgie se comprend elle-même, la liturgie est la célébration de la foi des croyants. Cette foi chrétienne ne va pas de soi pour les jeunes, même les jeunes animés d'un esprit qu'on pourrait qualifier de religieux, ou ce qu'on appelle parfois, ils ont un sens du sacré. Le but de la liturgie est bien d'annoncer et de célébrer le Dieu Trinité de Jésus. Jésus qui s'est révélé aux hommes de différentes manières. Or, l'image de Dieu chez les jeunes ne repose pas uniquement sur les seules représentations chrétiennes. Mais l'image que les jeunes ont de Dieu intègre aussi des influences multiples d'autres origines, que ce soit d'autres religions ou courants philosophiques, que ce soit des groupes sectaires, que ce soit aussi la manière dont ils perçoivent des images de Dieu dans leur entourage. Donc, pour donner un exemple concret, une manière pas totalement achevée de comprendre le mystère de Dieu, c'est le lien entre Dieu et la souffrance. Combien de jeunes ne sont pas témoins d'un certain nombre d'adultes qui estiment que la souffrance est une punition de Dieu? Dieu l'a voulu. C'est hélas une représentation de Dieu qui est extrêmement répandue. Une autre représentation de Dieu qui est très répandue et qui fausse beaucoup de choses, c'est Dieu sait tout. Il sait absolument tout, il sait tout d'avance. Et donc, ceci ou ça, bien entendu, c'est lui qui l'envoie. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire à propos de ces représentations diffuses de Dieu. Un dernier exemple, j'en frémissais parce que avant d'arriver à Waterloo, j'avais quatre petites églises de village à desservir comme prêtre. Et dans une des villages, à mon grand dam, quand on franchissait la porte d'entrée, il y avait au-dessus un énorme triangle avec un œil, était marqué en grandes lettres dorées, « Dieu vous voit ». Et donc, vous connaissez l'expression célèbre de Sartre, « Un Dieu voyeur, comme ça, je n'en veux pas ». Et donc, quelle est la représentation, on voit l'idée de l'omniprésence, de la sollicitude de Dieu. Mais on a transformé cela progressivement chez beaucoup de personnes en un Dieu gendarme, donc c'est un Dieu qui voit tout ce que tu fais. Et donc même si tu me caches ceci ou si tu mens, comme si Dieu le verra, combien d'enfants n'ont pas été ainsi, non pas formés, mais apeurés. Bien. Et donc l'image que beaucoup de jeunes ont de Dieu sont souvent ternies par les représentations environnantes, ou éventuellement des contacts qu'ils ont entre eux, ou des échos qu'ils entendent en zappant. Mais ce n'est pas une question de tout ou rien, parce que, en fait, la foi, en tout cas la foi biblique, telle que la Bible en parle, la foi est foncièrement dialogale. La foi, c'est fondamentalement un « je tue ». Et donc, la foi est un grand atout dans la construction de soi. Et donc, je comprends bien que le professeur D estime que, pour un jeune, la foi peut être mobilisatrice. Certes, les jeunes ont, de prime abord, beaucoup de jeunes ont, à propos de Dieu, l'image d'un Dieu non pertinent. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas pertinent? Parce que, disent-ils, on ne peut pas lui poser leurs questions sur la souffrance, l'amour, l'avenir. Et comme on ne s'est pas posé cette question, Dieu ne sait pas y répondre, donc il n'a rien à me dire. Vous allez dire, c'est extrêmement simpliste comme raisonnement, mais je pense que c'est très répandu. Les jeunes ont le sentiment que leur question, qui parfois pour eux est urgentissime, que Dieu ne sait rien y faire, hein, et donc il n'a rien à y faire. Alors encore une fois, en les accompagnant et en étant attentif à la Bible, on peut mettre en valeur que l'expérience du cri, que ce soit le cri des esclaves en Égypte ou que ce soit le cri du crucifié sur le Golgotha, que l'expérience du cri est un chemin d'expérience religieuse qui est capable de nourrir plus d'un jeune. Et donc, la grande affaire, hein, c'est en fait de permettre à ce jeune de découvrir l'importance du dialogue en tant que tel comme lieu natal de la foi chrétienne, la foi juive aussi du reste. Hein. Notre Dieu est un Dieu de parole, et qui dit parole dit invite à l'écoute, hein, avec cette offre à l'écoute qui peut être refusée, oui ou non. Et donc, il devrait y avoir ici un climat de catéchèse spécifique qui précéderait et poursuivrait la célébration avec des jeunes. Donc, la liturgie, j'y reviendrai, ne doit pas être le lieu de faire une catéchèse comme telle, mais elle doit être environnée par un débroussaillage, hein, des fausses idées de Dieu et d'une mise en valeur de l'aspect constitutif de la foi chrétienne qu'est l'expérience. Et ici encore, hein, dans l'organisation des JMJ, les carrefours qu'on leur propose pendant la journée, ou encore les carrefours qu'on propose aux jeunes à Thésée, en constituent une excellente illustration. Donc, un des atouts, c'est la soif de dialogue des jeunes. Et c'est la soif de qu'on prenne en compte sa question, qu'il est, plus qu'on ne le croit, qu'il est désireux d'énoncer. Donc, quand le contexte s'y prête, bien sûr. Quant à la célébration liturgique elle-même, ce serait faire fameusement illusion de croire qu'il suffirait de changer les rites pour résoudre tous les problèmes. D'abord, il faut prendre en compte les gens et la communauté qui célèbrent. Et il est souvent pastoralement nécessaire de tenir compte de cette grande variété, hein, de personnes désireuses de célébrer ou invitées à célébrer. Et donc, il y a à proposer en paroisse plusieurs formes de célébration. Pardon. Il y a donc des formes qui correspondent mieux à la mentalité des jeunes, hein, que la célébration de l'Eucharistie. Je crois que c'est une erreur, en tout cas pour ma part dans la pastorale scolaire, je n'élimine pas l'Eucharistie, loin s'en faut. Et quand des profs essayent de me dire « ils sont venus à la messe », je dis « on va négocier ». Mais en réalité, je crois que ce serait une erreur d'associer une démarche célébrante avec des jeunes toujours à une Eucharistie. Car les jeunes ont besoin d'avoir la possibilité, à côté des célébrations de la communauté, d'engager dans la liturgie leur situation de vie, leurs questions, leurs soucis, hein, et qui sont souvent les soucis d'un groupe spécifique pour leur âge. Mais ils demandent aussi une forme de prière qui leur soit spécialement adaptée, et en particulier, bien plus qu'on ne le croit, les jeunes sont désireux de moments de silence et de méditation. Et de ce point de vue, la liturgie à Thésée est une superbe réussite. Et donc je vais terminer le temps qui me reste en évoquant cela, et notamment à l'aide d'un article tout récent de Jean Cockerels, qui est curé doyen à Uccle, entre autres, et qui a publié dans la dernière livraison de la Maison Dieu, le numéro 255 en 2008, hein, un article qui s'appelle tout simplement la liturgie à Thésée. Alors, en fait, comme vous le savez, Thésée accueille chaque année des dizaines de milliers de jeunes. Des dizaines de milliers de jeunes. Je ne connais pas le chiffre exact. Mais j'y suis allé pendant de nombreuses années à Pâques avec des jeunes de mon ancienne paroisse. Et donc, nous étions chaque fois 5000 pour cette semaine-là. Donc, j'imagine qu'on doit être plusieurs dizaines de milliers par an. Et donc, l'organisation, hein, le programme qui est proposé aux jeunes, hein, en général, on les invite à venir passer une semaine, ce programme est structuré par trois temps de prière communes qui ont lieu à l'église qui s'appelle à Thésée, l'église de la réconciliation. Le fondateur de Thésée, le frère Roger Schutz, a toujours privilégié que la liturgie soit belle et humble. Belle et humble. Et pour que la liturgie soit belle et humble, il a fait composer des litanies très simples. Les frères de Thésée appellent ça des chants méditatifs. Et vous les connaissez sans doute, ces chants méditatifs de Thésée sont limités à une ou deux phrases, longuement répétées en plusieurs langues, et ces phrases abordent un point essentiel de la foi chrétienne via un père de l'Église, souvent saint Augustin, ou via la Bible. Mais me semble-t-il, ce point essentiel, entre guillemets, du dogme, hein, est toujours ou quasiment toujours abordé d'un point de vue expérientiel. Ça me frappe beaucoup. Par exemple, la ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. Donc c'est une phrase d'un psaume. Et donc on peut, je n'ai pas fait le relevé systématique, je me suis pris une fois de plus trop tard pour préparer ce cours, mais ça a peut-être été fait, mais ce serait intéressant de voir quelle est la fréquence du poids d'expérience dans les fameux chants de Thésée. Alors, à côté de ce qu'ils appellent, ce que les frères appellent les chants méditatifs, quelle est la structure de la prière à Thésée? Il y a un psaume, une lecture biblique, des prières d'intercession et le Notre Père. Vers la fin de la liturgie, le prieur propose une brève méditation qui, elle, est très existentielle. Alors, que les philosophes me pardonnent, parce que le mot est un peu inadéquat, donc l'existentialisme fait une parenthèse sur l'hypothèse Dieu, je sais bien, mais j'emploie existentiel au sens courant, c'est-à-dire en lien avec la vie. Donc, les ingrédients, des chants, un psaume, une lecture biblique, des intercessions, le Notre Père et une méditation. Il manque un élément essentiel dans l'énumération, vous l'aurez deviné, c'est le silence, hein. C'est le silence. Et en fait, quand on regarde je vais employer un mot inadéquat, un peu horrible, mais très significatif, quand on regarde le fonctionnement de la liturgie à Thésée, ce qu'on commence par constater, c'est que cette liturgie est simple. C'est une liturgie simple. Elle comporte de nombreux éléments, parfois très originaux, et qui, mis ensemble, maintiennent cette simplicité avec en prime une incontestable beauté. D'abord le lieu. Il y a une simplicité, voire un dépouillement, dans la décoration du cœur de l'église de la Réconciliation, avec une lumière, un éclairage tamisé, qui en fait éveille au sacré, et la présence d'icônes ou de rares autres objets religieux, vous aurez remarqué que ces objets évitent l'effort de décodage que devraient soutenir des non-initiés lorsqu'ils entrent dans un culte étranger. J'ai fait l'expérience plusieurs fois avec des jeunes, certains n'étant pas baptisés, n'ayant pratiquement jamais mis un pied dans une église, Ils ne sont pas des paysans, enfin, c'est autre chose que les lieux qu'ils fréquentent habituellement, mais il n'y a pas une impression d'arcane, si vous voulez. On n'a pas le sentiment qu'il faut commencer par faire une visite guidée d'une heure pour expliquer et ça, et ça, et ça. Une visite guidée d'une heure leur ferait du bien, incontestablement, pour aller plus loin dans la signification des objets et du lieu qu'ils fréquentent à ce moment-là. Mais ce n'est pas indispensable pour le comprendre. Par contre, faites venir un jeune dans une église, une de nos églises paroissiales, hein, même pas nécessairement rococo, il y a toute une série d'éléments qui les étonnent, enfin, les chaises, ils ont compris, hein, cette espèce de table meuble au centre. Hein. Donc vous dites c'est un hôtel, donc j'ai déjà eu plus d'une fois un jeune qui dit, ah, on dort ici. Hein. Donc, mais, non, enfin. Je ne dis pas que le monde est entièrement déchristianisé, mais on doit bien se rendre compte à quel point il y a un décalage entre auxquels nous désirons annoncer donc, la présence du ressuscité, y compris au niveau de la célébration, hein, et ce qui pour nous est évident. Mais les évidences ici sont assassines, comme toujours dans le relationnel. À partir du moment où c'est évident, la relation va mourir. Donc voilà pour le lieu, hein, qui en fait évite un effort de décodage excessif. Ensuite, un élément de réussite de ces liturgies, incontestablement, c'est la présence des frères. Une présence nombreuse, qui est très visible, et qui, elle aussi, cette présence fait signe. Humblement, ils forment l'axe de la célébration pour entraîner les jeunes dans leur regard vers l'au-delà, vers un au-delà. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils trouvent en regardant ces frères à Thésée? Non pas des maîtres à prier, mais des compagnons de prière. Et tout est là. Ils trouvent des compagnons de prière. Alors, le silence. Je vais devoir bientôt y passer, il me reste 4 minutes. Au fil des années, les frères de Thésée ont clairement opté, ils n'ont pas fait tout de suite, pour un seul et long moment de silence, séparé, plus ou moins un moment de silence qui est préféré à des moments de silence plus courts, comme ils le faisaient au début. Et ce temps de silence est un élément vraiment essentiel et audacieux dans la liturgie de Thésée. Et c'est particulièrement impressionnant. Quand vous trouvez 5 000 jeunes, donc, parce qu'en principe il faut 18 ans, donc. On peut déjà y venir à 16 ans, disons de 16 à 25 à 30 ans, et que pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, hein, il n'y a rien. Si ce n'est, moi j'allais à Pâques, donc on toussait parce qu'il faisait tellement froid que un jour il y a un des jeunes qui a dû venir par l'extérieur avec son briquet, chauffer la tirette de ma tante parce que je ne parvenais pas à sortir tellement il avait gelé. Donc on peut comprendre qu'on toussait. Mais en fait, ce temps de silence, hein, est un moment particulièrement impressionnant. Et il est présenté à Thésée discrètement comme un moment unique d'une rencontre avec Dieu. C'est une respiration qui est nécessaire, hein, à toute rencontre. Et elle est extrêmement bien vécue par les jeunes, quelle que soit leur question. Quand on demande à un jeune au bout de 6 jours ou 7 jours de présence à Thésée, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? En général, numéro un au hit parade, c'est la simplicité dont je vais parler maintenant. Et numéro 2, c'est le silence, ce temps de silence. J'ai vu combien de jeunes, au premier office, pleuraient. Tout simplement pris dans ce moment-là, silencieux. Alors, un des grands secrets de Thésée, c'est son label de simplicité. Donc, la toute grande majorité des jeunes relèvent ce trait d'emblée. Et on retrouve cette simplicité partout, hein, dans les rencontres, dans le logement, dans la nourriture, dans la liturgie, et quand on ne se lève pas assez tôt, également dans la température de l'eau aux douches. Donc en fait, c'est simple, hein, manifestement. Et cette simplicité secoue les Occidentaux, très fortement. Parce que qu'est-ce qui les bouleverse? C'est qu'ils se rendent compte, à leur insu, qu'ils sont capables, pendant 6 ou 7 jours, de vivre aussi simplement. Sans web, sans SMS, ça j'en doute. Hein, mais, donc sans toutes les béquilles dont on s'entoure souvent pour avoir l'impression de vivre. Ceux qui rejoignent Thésée depuis longtemps savent que Le prieur, frère Roger, et ses compagnons n'ont pas hésité, au fil des années, à remanier le déroulement de la prière commune et son contenu vers une simplification de plus en plus grande. Tout est fait pour rendre l'expérience spirituelle plus accessible au plus grand nombre. On est toujours surpris, hein, je terminerai par là, de constater l'incroyable confiance que les frères de Thésée font aux jeunes qui viennent à eux. Et cette confiance, hein, laisse transparaître en fait celle que Dieu fait aux hommes qu'il aime. Et donc on ne s'étonnera pas qu'un des fruits les plus immédiats de la prière de Thésée, c'est celui, chez beaucoup de jeunes, d'une confiance retrouvée et de la joie d'exister. Voilà, quelques mots sur un thème difficile, mais un thème absolument vital, et qui, en fait, sera très actuel pour plusieurs d'entre nous, puisque nous allons accueillir bientôt 40 000 jeunes, dont on cherche encore un logement pour 7 8 000, je crois. Mais on trouvera. Voilà, donc on va faire un petit break et on se retrouve, pour ceux qui ne restent pas, en janvier pour les deux dernières rencontres. Hein.